Parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Voici maintenant que le réchauffement global de la planète est commencé.
Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne.
Et risque de réchauffement.
Donc à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent.
Le problème est extrêmement sérieux. Il est certain que lorsque la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère aura doublé, on se prépare à un changement climatique. Et ce changement climatique, il a commencé, si vous voulez, dès que les hommes ont commencé à brûler du bois, du charbon, du pétrole, c'est-à-dire dès 1850. La Terre va se réchauffer. Et pour l'instant, on ne le voit à peine. Et ce que nous ne pouvons pas dire encore que le climat a changé, parce que l'essentiel de la chaleur qui se dégage rentre dans l'océan. Donc, nous ne voyons pratiquement rien par rapport, ce n'est rien aujourd'hui, par rapport à ce qui va se passer dans 50 ans ou dans 100 ans.
Si ça devait continuer, cette augmentation de CO2, M. Jouzel, ça se traduirait sur la planète, disons, au 21e siècle, par une augmentation de combien?
Entre 1 et 1 degré et demi.
C'est pas beaucoup, ça.
C'est pas beaucoup, c'est beaucoup, si on pense que par rapport en période glaciaire, c'était simplement 4 degrés plus froid en moyenne du globe qu'actuellement. Donc c'est énorme, et ça va avoir des conséquences non seulement sur la température, mais aussi sur le niveau de la mer, qui peut monter d'une dizaine de centimètres à 1 mètre, suivant les prédictions. Par exemple, sur la fréquence des cyclones, ce qui est très important, si une prédiction telle qu'une fréquence de cyclone augmentée de 40% est vérifiée, c'est extrêmement important.
La planète se réchauffe et les conséquences pourraient bien être catastrophiques.
Pour les scientifiques, il n'y a plus de doute possible. Notre planète se réchauffe. Les températures augmenteront plus vite en 100 ans que lors des 10 000 dernières années. Les experts internationaux tablent sur une hausse des températures de 2 à 5 degrés le siècle prochain. Quelques degrés de plus le siècle prochain, et ce sont des répercussions innombrables sur notre existence. Hausse du niveau de la mer, bouleversement climatique, recrudescence des maladies infectieuses.
She won't take it all away. And don't try and tell me you know my bad hurt.
un mot du rapport qui a été rédigé par un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Club de Rome.
1972. Un rapport scientifique alimente les discussions sur les plateaux télé. Le rapport Meadows.
L'idée centrale du rapport est que, contrairement à ce que l'on a pu penser jusqu'à présent, la Terre est limitée.
L'alerte est lancée, la planète est en danger. À l'origine du rapport, le Club de Rome, un groupe de réflexion international réunissant scientifiques, économistes et industriels. À cette époque, la société de consommation explose et la crise pétrolière se dessine. La croissance industrielle et économique inquiète.
C'est à la demande d'un groupe multinational de scientifiques et d'industriels, le Club de Rome, que les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, se sont mis au travail. Ils ont fait parler l'ordinateur et, grâce à lui, ont pu établir un modèle dynamique des activités humaines à l'échelle planétaire. Cette étude a mis en relief les tendances les plus inquiétantes de notre développement et leurs interactions.
Pour les auteurs du rapport, les conclusions sont claires. Dévorée par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte. Aurelio Peccei est le fondateur du Club de Rome. Pour lui, il y avait urgence à agir.
C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espace disponible qu'il faut trouver, et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, les prochaines générations devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme.
Pour faire face à l'épuisement des ressources et à l'augmentation démographique planétaire, Aurelio Peccei avait une solution, la régulation des naissances.
Le plus grave, c'est la surpopulation du monde. Maintenant, il faut prendre conscience et connaissance des nouvelles réalités. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors je pense que les souffrances humaines seront presque infinies.
Vision pessimiste de l'avenir qui ne convainc pas tout le monde à l'époque. Parmi les sceptiques, le ministre de l'économie français, Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, les théoriciens de cette doctrine en tirent une conclusion simple, qui est « il faut arrêter la croissance ». Je ne suis pas un partisan de ces théories.
Pourtant, 50 ans plus tard, ces théories sont plus que jamais à l'ordre du jour. Il n'y a désormais plus aucune place pour le doute selon le dernier rapport du GIEC. Pour agir, c'est maintenant ou jamais.
Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Oh, le monde est beau, ouais, celui-là, c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois, je fais de la merde, mais c'est jamais de ma faute. Car le problème sera toujours les autres. J'roule les R comme Jack. Les congés, j'connais app.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Merci, mes amis.
La sécheresse dure depuis 3 ou 4 ans. Elle revient une fois tous les 60 ans. Mais auparavant, elle portait sur des pays moins peuplés. Maintenant, avec la densité de la population, on ne peut plus faire autant de jachères qu'autrefois. L'humus ne se reconstitue plus. Et par conséquent, l'érosion attaque les éléments fins du sol, le limon et le sable fin. Nous manquerons d'eau en l'an 2050 du fait de l'augmentation constante des utilisations urbaines. Par conséquent, il faudrait prévoir que la population du monde serait raisonnable d'arrêter son explosion et le développement industriel, le développement urbain spécialement, n'est pas sans conséquences graves sur l'avenir du monde. Il y a le problème des déchets radioactifs et de la pollution thermique des rivières ou des mers au bord desquelles on installe les centrales atomiques.
Le bien public, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau de nos rivières qui sert aussi bien à la vie de tous les jours. C'est l'eau potable dont nous avons besoin, c'est l'eau pure dont nos usines ont besoin. C'est non seulement l'activité écologique, la vie biologique qui est menacée, c'est toute l'activité économique. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, eh bien, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle.
Le jour où vous vous dresserez contre l'autoroute, vous aurez des chances de préserver ce qui vous reste de patrimoine.
Je ne suis pas un candidat doux rêveur. J'ai 45 ans de travail agronomique sur le terrain ou 45 ans de travail d'enseignement, surtout à l'Institut National Agronomique de Paris. Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux, c'est tout de même s'avancer un peu vite. Quand on va étudier les problèmes au village, avec les paysans, avec les agriculteurs, on doit être sérieux.
Les aider, il faut de l'eau, il faut
donne tous les droits sur nous, ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville? Tombons-nous comme des tigres qu'on exile. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Pour l'eau, 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 pour l'eau.
Posées par les téléspectateurs, il y en a une qui concerne la menace de réchauffement. Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'il fasse fondre la glace autour? Vous voyez les conséquences auxquelles pensent des tas de gens, c'est-à-dire que oui, si jamais quelqu'un a calculé...
Le niveau de la mer va monter,
oui, oui, si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers, exact, va monter de 100 mètres,
ce qui serait catastrophique. Mais ce ne sont pas les volcans qui le feront, ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle.
Oui. Expliquez-nous comment.
Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes...
Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités.
Et cette quantité de cette gaz carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
C'est un baratin, ça. Il y a l'histoire du CO2, ben on s'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui détruit la forêt. Non, mais attendez. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Si vous bon, alors, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole...
Oui, mais on ne peut pas planter des arbres dans l'Antarctique.
Non, mais on peut en planter n'importe où.
Mais il n'y a pas besoin que ce soit dans l'Antarctique.
Bien sûr.
On peut au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part, exactement, et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Oui. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas, et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts.
Voilà. Mais alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de l'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau niveau du pôle?
Non, il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne.
Et risque de réchauffement.
Donc, à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Et montée des eaux, et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre, et Marseille, et Nice, et Londres.
Ah, vous êtes en train de paniquer les populations, là.
C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades, mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade, elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Fils de la
nuée des rêves. Moi, je cultivais les chimères comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève qui persévère dans chaque verre en rêvant. Je lisais sur leurs lèvres couramment les signes du langage, des signes de l'étang. C'est ma force sans alarme. Moi, je vis dans les eaux calmes, simirant le narcissisme des étoiles. Parle à mes iris, mettre la lumière dans mes oreilles. Fille du pancalisme, les chimères devinrent réelles. Unique beauté du ciel, dans un monde de fiel. Unique sucré du ciel, sur la voie lactée de miel. Et puisqu'elles aiment les rêveries solitaires du ruisseau, les constellations s'isolent et reflètent les songes dans les cours d'eau et marécages. Les reflets de la lune sur le miroir des rivages. Mais la pluie vint ternir avec ombre et nuages. Les mélodies de la lyre sur les couleurs des images. On vit les cieux se couvrir avec le temps des orages venir. Les tristes cires matérialistes qui songent à définir pour oxyre la liberté des songes à l'avenir. Le rêve devient étrange. Cassandre ne prédit plus dans l'eau. Oublie tous les destins et au descendre du bateau morphée et clandestin. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Fils de la nuit et des rêves, moi je cultivais l'amour comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève et les naïades pour amant. Car j'embrassais leurs lèvres couramment. Dessine avec des mots leurs mains au creux des lettres et leur corps contre mon être intime. Langage des abîmes de l'océan, je vis dans les eaux profondes se troublant. Les filles de l'érotisme comme Vénus dans le ciel. Unique beauté à celle que j'imagine dans ce monde de fiel. Unique sucré du ciel surplombe des mers salines et des déserts de sel. Et puisqu'elle n'aime pas être seule comme mes salines, les constellations salines reflètent mes mirages comme des gouttes de lumière sur le miroir des rivages. Mais la pluie vint ternir avec ombre et nuages. Les mélodies d'amour mirent des notes un peu plus sages. On vit venir avec le temps des orages. Les tristes cires moralistes qui savourent à définir pour oxyre la liberté d'amour à l'avenir. Les cœurs deviennent étranges, blessés dans son talent cupidon. On imite plus le Comanche, plus de péchés mignons et d'Aphrodite qui s'allonge. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort.
C'est juste une histoire d'eau.
Juste une histoire d'eau. Mais c'est juste une histoire d'eau.
Juste une histoire d'eau.
C'est juste une histoire d'eau. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire qu'une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire que l'histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort.
Que l'eau qui dort.
On n'a que le rêve et l'amour, il nous reste ça. Il nous reste ça. Et on la gardera.
Au pays des aveugles, les sceptiques sont rois. Bonjour. Non, le changement climatique n'existe pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas lié aux activités humaines. Et puis, quand bien même, ses conséquences seront peut-être positives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on pourra revenir au climat d'avant grâce à nos super-pouvoirs technologiques. Voici les quatre étages d'une fusée bien rodée, celle des climato-sceptiques. Quatre points de contestation rebattus à longueur de débats, de publications ou d'apparitions médiatiques. Regardons les arguments phares. Ces 15 dernières années, les températures moyennes du globe ont stagné, donc le changement climatique est une illusion. Sauf que prendre une période si courte revient à regarder un paysage grandiose à travers une nouille plate. Depuis 1980, chaque décennie est plus chaude que toutes les précédentes. Un ralentissement sur 15 ans ne modifie pas cette tendance longue. Oui, mais au Moyen-Âge, il a fait plus chaud. Oui, mais non. Il n'a fait plus chaud que dans l'hémisphère nord, pas sur le globe dans son ensemble comme aujourd'hui. Ok, il y a peut-être un réchauffement, mais c'est à cause des rayonnements solaires. toujours pas. Depuis 35 ans, l'activité solaire diminue alors que les températures, elles, continuent de grimper. Mais malgré les évidences scientifiques, le doute continue à infuser depuis des décennies. Aujourd'hui, 17% des Australiens, 15% des Norvégiens ou 12% des Américains ne croient tout simplement pas qu'un changement climatique soit en cours. En France, 22% de la population doute du lien entre les activités humaines et le changement climatique. Quel est donc le carburant des climato-sceptiques ? Alors que 97% des scientifiques reconnaissent qu'il y a bien un changement climatique en cours lié à nos activités. D'abord, il y a le doute, pierre angulaire de toute science. Les scientifiques ne sont jamais sûrs à 100%, alors les sceptiques se glissent dans les pourcentages restants. Mais l'observation vaut parfois mieux que tous les discours. En 2010, le physicien américain Richard Müller doute des chiffres de l'évolution des températures présentés par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Convaincu que des erreurs humaines se sont glissées dans les relevés utilisés par le GIEC, il conçoit une méthode entièrement automatisée du traitement des données. 2 ans plus tard, il obtient les résultats. Ils sont identiques à ceux utilisés par le GIEC. Il abandonne alors les rangs des climato-sceptiques. L'autre carburant de cette fusée est financier. Willie Soon, astrophysicien américain, attribue le changement climatique au rayonnement solaire. Pour mener ses recherches, il a reçu plus d'$1,2 million d'entreprises comme la Southern Company, géant américain de l'énergie, ou ExxonMobil, l'un des plus grands groupes pétroliers au monde. Entre 2005 et 2008, ExxonMobil a d'ailleurs dépensé près de $9 million pour financer différents think tanks niant le changement climatique. Koch Industries, géant du pétrole, de la chimie et des matières premières, leur a, quant à lui, généreusement légué près de $25 million. Quand on aime, on ne compte pas. En Australie, le Parti libéral arrive au pouvoir en 2013. Tony Abbott devient alors Premier ministre. Climato-sceptique convaincu, il supprime dès l'année suivante la taxe carbone mise en place par le gouvernement précédent. En finançant à hauteur d'$1,2 million la campagne du Parti libéral, les géants australiens des mines, du pétrole et du charbon ont misé sur le bon cheval. Au final, les climato-sceptiques ne rejettent pas le changement climatique. Ils refusent surtout les conséquences de ce constat, changer notre modèle de société. Les risques pour le chiffre d'affaires des géants des énergies fossiles semblent plus palpables que les impacts du changement climatique. Peut-être plus pour longtemps.
Oyez la planète, oyez braves gens, terrible nouvelle, danger imminent. Il s'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de l'autre monde. Il est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui mieux pour Fanlo. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui errait aux abois, pleure la vie. Il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oyez la planète, oyez braves gens, que tous ceux et celles croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants aient droit tout comme nous à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant pour retrouver le papillon qui bat de l'aile, le joueur qui vole plus haut. Fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici bas nous sommes alter ego. Pour retrouver le papillon dans la tourmente, qui errait aux abois, pleure la vie. Qu'il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Et nous étions si bien ensemble, un peu comme 30 millions d'amis. Il dit que c'est à nous la faute, et qu'il nous revient d'en payer le prix. Citoyens du monde, pensez à demain. Et je dis gare à ceux qui se targuent de quelques grenelles, que le monde se couvre de ridicules ombrelles, qui font passer leur seul et petit intérêt avant celui de tout un monde couvert de plaies, qui pensent que le peuple ne peut rien, car ils ne savent tout ce dont est capable le genre humain. Je dis qu'il est juste et bon de faire de l'esprit en toute humilité au moyen de cette funeste théorie. Celle du papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui le dernier mot. Faut-il que le terme de cette querelle ne vienne que par chaos.
celle du papillon qui nous sommes, de nous reprendre, de faire ce qu'il convient, nous comporter enfin comme des hommes, et non des dieux qui changent l'eau en vin. Oui, oui, citoyen, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Oui, oui, citoyen, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Il n'est ici que prophète, conscient de tout cela vous êtes. Nous sommes notre propre fléau, méfions-nous des faux en tout genre. Oui, oui, brave gens. Oui, oui, citoyens. Oui, oui, la planète. Oui, 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 oui.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Il passait pour un hurluberlu à l'époque, mais il n'avait pas tort.
Il a fait un coup absolument magnifique. Je m'en souviens très bien parce que j'étais passionné de politique à l'époque. Et donc je suivais ça avec passion. Je suivais tous les débats politiques. Il y avait Giscard, Mitterrand, etc. et tous les autres.
Mais ça ne vous a pas ancré dans l'écologie pour autant?
Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il se trompait. Il disait avant la fin du siècle. On est 20 ans après le siècle et on ne manque pas d'eau et personne ne manque d'eau. Alors qu'il y ait des problèmes écologiques, qu'il y ait un réchauffement climatique, très bien, mais je veux dire très mal, mais en tout cas, il se trompait dans la prédiction.
De quelques décennies seulement.
Comment ?
De quelques décennies.
Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Moi, je ne pense pas qu'on manquera d'eau. Je crois à deux choses. Je crois à l'adaptabilité infinie de l'espèce humaine et je crois au génie humain qui va trouver des solutions techniques comme il a toujours trouvé. Comme il a toujours trouvé pour se sortir des situations qui paraissent des impasses. Si vous voulez, je crois profondément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, de crises, de catastrophes. Mais moi, je pense, si vous voulez, que la catastrophe qui menace la France, ce n'est pas une catastrophe écologique, mais c'est une catastrophe démographique. Et c'est un remplacement de population et un remplacement de civilisation sur notre sol. Je pense qu'en 2050, la population française sera à majorité musulmane, voire africaine, et que donc ça ne sera plus la France. Et que c'est pour cela que je me suis présenté à l'élection présidentielle, et c'est pour cela que je me bats, pour empêcher cela. Vous voyez, chacun a ses catastrophes, ses prédictions. Moi, c'est la catastrophe que je vois venir et qui me taraude le plus, parce que je suis attaché d'abord à la France.
Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, l'isot d'un béton.
Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, l'isot d'un béton.
Timari qui rêve, ni décane la Dian, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un guéant. Timari qui rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descendre. Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, l'isot d'un béton.
Timari qui rêve, il rêve la Réunion. Timari qui rêve, l'isot d'un béton.
Timari qui rêve, ni décane la Dian, pour nous plante de riz, pour nous plante de grains, même sans samaï, pour nous guémoiser. Au lexique nous dit, sans sa fin de l'engrais. Timari qui lève, là au bras bon dos. Timari qui lève, au son is animaux.
Timari qui lève,
c'est bon. Son carreau, petit piment oiseau, petit mari qu'il aime, même si les gars est pris, même si le soleil là, au fatigue à l'île, petit mari qui rêve, il rêve la réunion, petit mari qui rêve, l'issot d'un béton, petit mari qui rêve, il rêve la réunion, petit mari qui rêve, l'issot d'un béton, petit mari qui rêve. Il rêve la réunion, tu mari qui rêve, il saute en béton, tu mari qui rêve, il rêve la réunion, tu mari qui rêve, il saute en béton,
il saute, il saute, ah là là.
Avez-vous dit, il est vraisemblable, parce que ça, ça m'a surpris quand même, il est vraisemblable qu'une partie de l'activité humaine ait aidé à générer le réchauffement du climat, mais je suis sceptique. Et le futur est imprévisible. Vous êtes sceptique.
Bien sûr, je suis même sidéré, mais je suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Enfin, c'est,
on vit dans un
monde de fous.
Mais on ne dit pas, je vous demande, vous êtes sceptique, pourquoi êtes-vous sceptique?
Mais sinon, je ne serais pas un scientifique, enfin.
Sur la climatologie, vous êtes sceptique. Vous pensez que l'activité humaine...
Non, je pense.
Alors, allez-y, précisez votre pensée, parce que c'est...
Écoutez, qu'il y ait des... Alors, les gens deviennent plus raisonnables. Qu'il y ait des changements climatiques, c'est vrai, il y a des changements climatiques. Qu'il y ait... Que nous devions faire attention à ne pas détruire l'endroit dans lequel nous vivons, c'est une évidence. Et donc, en plus... Moi, je suis écologiste par nature, puisque toutes les maladies infectieuses ne sont que des maladies d'écosystème, en soi. D'accord. Après, je ne suis pas... Je n'aime pas, si vous voulez, les simplifications extrêmes, ni les discours qui deviennent des discours de propagande. Et en particulier, j'étais particulièrement irrité par Al Gore, qui a fait fortune en se déplaçant dans les quatre coins du monde pour raconter qu'il n'y aurait plus de banquise et qu'il n'y aurait plus d'ours blancs. Et il faut regarder les déclarations d'Al Gore et ce qu'il a fait, et ce qu'il nous a prédit pour 2012 et ce qui s'est passé. Donc je n'aime pas les faux prophètes, je n'aime pas les gens qui donnent des caricatures de l'histoire, et ça n'empêche pas les gens d'être raisonnables. Mais il y a des moments où être raisonnable, c'est comme au temps de l'Inquisition, le fait d'être raisonnable justifie le bûcher. Donc le scepticisme, c'est la nature même des scientifiques. Si vous cessez d'être sceptique, si vous cessez...
Vous doutez de tout.
Ah, bien sûr.
Sauf de l'hydroxychloroquine et de son efficacité.
C'est pas encore, vous êtes mesquin.
Oil in the ground. La question est, est-ce que l'accroissement du CO2, on va prendre cet exemple-là, puisque c'est celui que le GIEC considère comme le plus important, est-ce que cet accroissement, on rappelait tout à l'heure qu'il est bénéfique pour la végétation, les plantes, les récoltes, mais est-ce qu'il peut provoquer un réchauffement qui deviendrait catastrophique? Il suffit de regarder...
Moi, je le pense vraiment. Vraiment, c'est, je veux dire, le mot catastrophique, je ne l'emploie jamais, mais je crois que c'est une erreur de toujours montrer simplement ce gaz carbonique supplémentaire. C'est vrai que c'est la vapeur d'eau qui est le premier gaz à effet de serre, mais ce qui augmente, ce qui change le bilan énergétique actuellement, c'est l'augmentation du gaz carbonique pour les trois quarts et, disons, 70%, c'est lié à notre utilisation de combustibles fossiles. C'est très important d'admettre cela quand même, et quand je vois que vous n'admettez pas que l'augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère, du gaz carbonique est liée aux activités humaines, effectivement, je crois que vous êtes dans l'erreur.
François Gervais.
Alors, lié aux activités humaines, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit, parce que quand on parle d'anthropocène, il faut constater d'abord que l'humanité a été multipliée par 10, puis par 10, on est arrivé à 7 milliards, donc il y a déjà un facteur d'échelle qui est considérable, et il faudrait faire la part, dans ce que vous dites, de ce qui relève de cette
et
augmentation
cette part, on l'a fait, monsieur.
Considérable, et de ce qui relève, effectivement, de l'activité de chacun sur la planète.
Cette part, on l'a fait. 10 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2 chaque année, c'est très clair. 5 milliards restent dans l'atmosphère, 5 milliards vont dans la biosphère, effectivement, ça lui fait du bien. Et la moitié égale l'autre moitié dans l'océan. Et là, ça ne lui fait pas de bien parce que c'est l'acidification de l'océan. Je crois que c'est très important d'avoir cette...
Attendez, il faut aussi savoir qu'un Américain moyen émet 32 fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'un Éthiopien moyen. Donc la démographie, elle peut avoir bon dos dans certains cas. Il faut aussi revisiter nos modèles de développement.
Mais paradoxalement, Manhattan, il en émet 4 fois moins que l'Américain moyen. À Manhattan.
Donc bon. François Gervais, terminez pour qu'on comprenne.
Quand on observe les faits, aujourd'hui, j'étais à regarder ce matin, la superficie de banquise antarctique présente un excédent d'un million de kilomètres carrés par rapport à la moyenne depuis 35 ans qu'on fait les mesures.
Donc elles ne font pas la banquise ?
Ah non, elles augmentent.
Elles augmentent.
Elles augmentent. À côté de ça, il y a un déficit de banquise arctique qui est à peu près du même ordre. Quand on fait le bilan sur l'année 2013, l'excédent, en moyenne, est positif. Après 65 ans d'émissions de CO2, on est dans une situation, il suffit d'aller voir les images satellites, on est dans une situation où on a un léger excédent. Il y a eu, effectivement, un premier réchauffement qui s'est produit entre 1910 et 1940, qui est passé par un maximum. Ça se voit très bien, d'ailleurs, sur la hausse du niveau des océans. On a un maximum, la plus forte hausse du niveau des océans, c'est dans le rapport du GIEC, figure 3.14. On est passé par un maximum en 1945. Après, c'est redescendu. C'est là que les premiers modèles de climat ont commencé à être élaborés. J'ai eu un témoignage d'un jeune programmeur à l'époque, au début des années 60, qui a dit, voilà, j'étais programmeur des premiers modèles de climat. C'était au NCAR. Il voulait programmer pour expliquer le refroidissement climatique à ce moment-là, parce qu'après la hausse de 1945, ça s'est mis à redescendre. Et puis après, ça s'est mis à remonter. Alors la première fois qu'on s'est monté de 0,6 degrés, on a dit, bah oui, c'est naturel. Et puis la deuxième fois qu'on s'est monté exactement de la même quantité de 0,6 degrés, on a dit, c'est le CO2. Parce que, alors, effectivement, à partir de 1950, il y a eu une augmentation du taux de CO2. Et après, depuis 15 ans, il ne se passe plus rien.
Rien ne presse, rien ne presse. Je dis qu'un jour je vais me repentir. Rien ne presse, j'arrête le sale après le lion, je me tire. Rien ne presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien ne presse, mais j'ai quand même pressé la détente. Rien ne presse, je dis qu'un jour je vais me repentir. Rien ne presse, j'arrête le sale après le lion, je me tire. Rien ne presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien ne presse, mais j'ai quand même pressé la détente.
Au calme, le que dépressé. V'là du haut de gamme, épais tendu comme un crâne tressé. J'suis dans le crash test et c'est trash. Si le DJ scratch ma voix, il se fait nachar. Si j'fais de la maille, j'achète un paf. Tu piges, il faut du cash. J'ai la flemme qui n'a achète une save. J'pète une taf, le shit à couleur sable. Si j'écoute leur femme, c'est pour baiser leur femme. J'ai vu l'heure sur leur montre, il est temps de poser mes couilles sur leur table. La douleur monte, avec la peuse, c'est sur mon table. Mets ça sur mon ardoise, j'suis pas dans les chartes. J'suis à la frontière du Val d'Oise, dans un bar, j'joue aux cartes. Mon art c'est le rap, je le connais bien. Je lui ai cassé sa bouche dans un parc, j'étais collégien.
Tout va si vite dans ma lenteur, j'en ai conclu qu'il n'y avait pas d'urgence. Le pouvoir c'est l'argent, mais il n'est rien de ce que la nature prend. Je prie pour les miens, pas pour moi-même, faut une arme à feu. J'observe de loin, j'ai grave la haine, faut que j'en parle à Dieu. Si je suis lent pour faire les choses, c'est que je veux qu'elles soient bien faites. Y'a de grandes chances que j'explose, c'est pour ça que je me tiens tête. Prendre la hauteur, je repense à mes priorités. Des drôles d'idées, être en suspens et prendre le temps pour les terroriser. Rien qui presse, pile au beau fixe. J'attends que ma philosophie tire au profit. Les vignes iront copier, le vice tire au sommet. Y'a pas le feu au lac, il est sur moi, j'ai trop attendu. Un coup de poker, tu prends mes cartes, c'est ce que le travail
rien
m'a rendu.
Rien ne presse, je me dis qu'un jour je vais me repentir. Rien ne presse, j'arrête le sale après le lion, je me tire. Rien ne presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre.
Allez, dans cette vue de haut, ce matin, je suis très heureux de recevoir Christian Girondeau, ingénieur polytechnicien et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions environnementales. Il est un grand féru de toute la littérature du GIEC, bien entendu, et cette connaissance encyclopédique lui permet de dénoncer, selon lui, 30 ans de mensonges pour lesquels il appelle à sortir de la science-fiction, pardon, du GIEC. Bonjour Christian Girondeau, comment allez-vous ?
Eh bien, écoutez, je vais fort bien pour parler de ce sujet qui nous préoccupe tous.
Oui, et qui est tabou, hein, qui est terrible. On peut plus débattre du climat, hein, Christian Girondeau. C'est absolument incroyable. Hein. On peut rien en dire finalement. C'est un peu l'objet de votre livre, hein, en introduction.
Ben, si vous voulez, on est rentré dans une époque étrange, mais qui a eu des précédents. Vous savez que du temps de Galilée, ceux qui osaient dire que c'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre avaient de très graves problèmes. Et puis, quand on regarde dans le temps, il faut savoir aussi, par exemple, que la loi de la gravitation universelle a été combattue par l'Académie des sciences française pendant trois quarts de siècle, qui disait que c'était pas vrai. Et puis, vous avez eu Pasteur, qui a osé dire, à son époque, qu'il n'y avait pas de génération spontanée des microbes. Et bien, on est dans ce cycle que je qualifierais peut-être d'infernal, de fausses informations, de fausses croyances, et qui sont répétées par tout le monde, et c'est ce qui se passe en ce moment avec ce réchauffement climatique qui existe bien sûr, mais qui a toujours existé au cours des siècles. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que nos ancêtres, aux alentours de l'an 1000, ont connu un climat qui était à peu près le même que celui que nous avons aujourd'hui. Et il n'y avait pas de voiture diesel à l'époque. Donc, nous vivons un cycle normal, naturel, et on a réussi à faire croire que tout ça, c'était de la faute des activités humaines. Bon, eh bien, il faut se replacer dans l'histoire et savoir que ce genre de déviance revient périodiquement, mais en ce moment, elle est particulièrement marquée.
Alors oui, c'est très intéressant et justement, je voulais vous inviter pour ça, pour que vous puissiez vous exprimer et vous avez des détracteurs, forcément, et on va en parler longuement dans cet entretien. Je vous remercie, Christian Girandeau, d'avoir accepté mon invitation sur Ligne Droite. Vous parlez, vous avez prononcé le mot de religion. Est-ce que l'écologie est-elle une nouvelle religion et quelles sont, si oui, quelles sont ses valeurs et surtout ses croyances, cette écologie?
Ah ben oui, c'est une religion. D'ailleurs, j'ai intitulé un de mes livres, il y a deux ans, « La religion écologiste ». Et j'ai montré d'ailleurs les similitudes extraordinaires avec la tradition judéo-chrétienne, qui explique d'ailleurs pourquoi cette religion a pris, je dirais, son essor dans le monde développé, dans le monde occidental, mais totalement ignoré du reste de la planète. Les Chinois, les Indiens, les Africains se moquent éperdument de ce qu'on leur dit, continuent à construire des centrales à charbon, ils ont d'ailleurs raison pour leur population. Mais pourquoi religion? Regardez la religion, la tradition judéo-chrétienne. C'était le paradis avant l'apparition de l'homme. Puis l'homme est arrivé, il a péché, avec Ève d'ailleurs. Et puis, après, il faut qu'il se repente, sinon il va en enfer. C'est ce qu'on a appris à l'Église, tout au moins à l'époque où on y allait. Et regardez ce qui se passe avec cette religion écologiste. Avant l'homme, la planète allait très bien. Et puis l'homme arrive, il utilise du pétrole, du charbon, il détraque la planète avec du CO2. Donc il faut qu'il se repente, il faut qu'il change ses comportements, sinon la planète va en enfer. On a une similitude tout à fait étonnante, mais qui explique le succès de cette pseudo-religion dans le monde occidental, et particulièrement en Europe, et particulièrement en France.
Après le torrent, les ruines. Au lendemain des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations monstres, le sud-est de l'Espagne se réveille sous le choc. Autour de la ville de Valence, des bouts de ponts, de routes et de voies ferrées ont été emportés.
Horrible. La vista normal
est C'est horrible, dit cet Espagnol. Normalement, ici, la vue est incroyable. Difficile de croire pour certains que c'est l'équivalent d'une année de pluie qui est tombée la veille par endroit.
Minimum à ver, porque...
Quel désastre, lance-t-elle. Nous voulions venir voir par nous-mêmes. Je n'ai jamais vu cela, jamais, dit cet homme. Les autorités sont incapables d'établir le nombre de personnes qui manquent toujours à l'appel. Les équipes de secouristes poursuivent les recherches pour trouver des survivants. Ces pompiers espagnols ont sauvé plus de 3000 personnes des eaux depuis mardi, dont une femme et son bébé. Ici, à Chiva, les supermarchés sont vides. Les résidents commencent à craindre une pénurie d'eau et de nourriture. Je me suis procuré cette eau chez un voisin, dit l'homme. Cela fait peur, nous n'avons plus de réseau pour communiquer avec nos proches. Comme lui, des milliers de foyers sont toujours sans électricité. Et malheureusement, les Espagnols ne sont pas au bout de leur peine. Le premier ministre a mis en garde la population qu'une autre tempête pourrait s'abattre sur la région.
La dana continua et que,
ce n'est pas terminé, dit Pedro Sanchez. Restez à la maison, restez en sécurité. Nous continuons les recherches par terre, air et mer des personnes disparues. Ces inondations seraient les plus meurtrières que l'Europe ait connues depuis des années. Le gouvernement espagnol a décrété un deuil national de 3 jours. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.
Allô?
Allô, allô, James. Quelle nouvelle, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle, ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries, mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, si l'écurie...